Question de transfert d'argent simple, rapide et sécurisée vous présente Radio Foot International.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission consacrée au football, à cette planète qui continue à tourner toujours rond autour de son ballon. Et nous parlerons aujourd'hui de Barcelonais renversant une remontada du Barça au Camp Nou, et les Blaugrana disputeront la finale de la Copa del Rey grâce notamment à un virevoltant Dembélé. Prend-il enfin son envol ? À une semaine du match retour au Parc des Princes, le PSG doit-il se méfier ? La presse catalane commence à y croire. Tremblez, Parisiens ! Vous tremblez, Eric Ramessandratana ?
Pourquoi vous me regardez ? Je ne vois pas pourquoi vous me regardez. Bonjour,
vous avez
Annie,
jamais peur
à tous.
Avant et après, mais vous
là,
êtes dépité.
Pour l'instant, je suis très bien. Tout va
pour
bien.
L'instant, tout va bien.
Bon. J'ai pas aimé le terme « remontada », mais je suis tout va bien.
Oh, ils en ont pris aussi des montada, eux, ouais, donc hein, c'est partagé. Lille garde la tête, Monaco s'éloigne du podium. Bilan d'une journée de Ligue 1 en milieu de semaine. Journée aussi en Angleterre où Manu et les Foxes ont fait du surplace. Et là, c'est Bruno Constant qui nous en dira plus. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je passe un petit bonjour à David Finzel qui vous écoute chaque jour.
C'est vrai, vous croyez ?
L'aficionados de cette émission.
Un fidèle. Alors Patrick Juillard a eu sûrement un œil sur Nice.
Oui, qui, pour une fois à gagner.
Pour une fois à gagner,
non,
mais bon.
Je suis mauvaise langue, ça fait deux matchs de suite, pardonnez-moi.
C'est oui, tellement,
c'est l'habitude, c'est l'habitude.
Et puis, nous sommes à 99 jours de l'euro. Oui, on a raté le centième hier, mais on est à 99 jours, c'est plus joli peut-être. La question revient en tout cas, où se disputera la compétition européenne ? Alors que la pandémie menace les regroupements et entrave les déplacements, il existe des plans B et nous vous en parlerons dans cette émission. J'aimerais faire un salut particulier à un de nos auditeurs. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui nous écrivent sur la page Facebook. Lui, il s'appelle Dick Camara et il nous écoute à Boguel Fadoua, c'est en Mauritanie. Et puis, bah, David Finzel, justement, celui qui nous écoute beaucoup, il est là et il m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, le fidèle. Et puis, je vous demande tous d'applaudir un certain Laurent Vecchio Salerno aujourd'hui, parce qu'il a un an de plus, Laurent Salerno, aujourd'hui.
Joyeux anniversaire, Laurent. Bravo.
Alors, il a soufflé ses bougies déjà, mais...
On le voit rougir derrière la vitre.
On le fait à l'antenne, ouais. Hein. Allez, Radio Foot, c'est parti.
Le duel entre les Français, Ousmane Dembélé, le dernier mot pour l'attaquant du FC Barcelone. Et bien voilà, il a trouvé le cadre, Ousmane Dembélé. Ce sont des débuts idéals pour le FC Barcelone qui n'ont plus qu'à but à marquer pour aller chercher peut-être une prolongation. S'il y a un miracle à faire pour Ter Stegen, c'est maintenant face à Lucas Ocampos. Il le fait ! Penalty qui a été mal tiré par Lucas Ocampos et Ter Stegen est déterminant. Le Barça est toujours vivant dans cette demi-finale. Le centre d'Alba, il est bon. Et derrière le but, Trincao, Braithwaite. Ils ont réussi à arracher la prolongation de 0 et à marquer dans cette prolongation pour se qualifier 3-0 en finale de la Coupe du Roi face au FCC.
Il fallait les voir, les Barcelonais, exulter hier soir au Camp Nou. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu des scènes comme ça. Les Andalous, eux, tête basse, semblaient clairement s'en vouloir. Arrivé à Barcelone avec deux buts d'avance, le FC Séville a donc été éliminé de la finale de la Copa del Rey par des Barcelonais pleins d'allant, explique l'international français Clément Lenglet.
C'est la soirée parfaite puisqu'on voulait se qualifier et on a su le faire avec la manière, je pense. Ça a été long à se décider puisqu'on a marqué sur les dernières secondes du temps réglementaire. Mais avec le travail qu'on a fait tout au long du match et ce qu'on a fourni, je pense qu'on méritait d'au moins aller aux prolongations. Et derrière, on a su faire la différence avec l'énergie qu'on avait des 90 minutes.
Ils avaient de l'énergie, résultat donc ce 3-0. Les Sévillans ont loupé un pénalty, on l'a entendu, d'Ocampos. Ils réclament aussi un pénalty pour main de l'Anglais qui a été non sifflé. Finalement... ces Barcelonais, ils ont été chanceux, ils ont été favorisés alors que les Blaugrana, eux, ont été plutôt chanceux ou favorisés par rapport aux aux Andalous, selon vous, Eric Cabezon-Ratana?
Sur l'action de la main, le deuxième pénalty qui n'a pas été sifflé, oui, forcément.
Qui est examiné pourtant à la loupe par la VAR.
On voit très bien sur les images que...
Il y a tous les angles, c'est la règle, c'est pas forcément le...
Elle touche la poitrine avant?
Non, pas du tout.
Le ballon touche la poitrine avant?
Non, je crois pas, vraiment pas. J'ai regardé les images tout à l'heure.
C'est pour ça d'ailleurs que la règle est appliquée, c'est que si ça touche une autre partie du corps...
D'accord, moi j'ai pas vu ça, c'est pour ça. Si elle touche la main directement,
c'est léger,
et c'est ce que j'ai l'impression.
Mais depuis l'affaire de Paqueta, il paraît aussi qu'il y a une histoire d'agrandissement de la surface de contact en plus, parce que Paqueta, la balle lui touche une autre partie du corps et la main ensuite, et le pénalty a été sifflé.
Ouais, c'est pour ça.
En fait, c'est ambigu, quoi.
C'est toujours litigieux de voilà. En plus, bon, quand ça favorise Barcelone, on a toujours l'impression que c'est toujours répétitif. Donc là, c'est un peu gênant. Maintenant, Barcelone a été chercher sa qualification. Séville a pas été à la hauteur de l'événement. Il y a beaucoup d'erreurs de déjà dans l'agressivité sur le but de Dembélé. On voit, ils sont trois devant, ils sont huit dans la surface. Il y a cinq Barcelonais qui sont quasiment tout seuls dans la surface. Et c'est Dembélé qui marque sur une frappe de loin. Voilà, ça manque d'agressivité, ça manque de marquage et de concentration. Et puis c'est pareil sur le deuxième but d'égalisation au 2-0. L'égalisation sur le score 2-0. Le marquage, c'est pareil. Piqué qui met la tête. Il y a beaucoup de laxisme. Donc ça fait beaucoup. On va pas dire que Barcelone a été favorisé dans ce sens-là, mais voilà, il y a quand même cette histoire de main qui on peut se poser la question.
Patrick Juillard, est-ce que le match au cours de la semaine qui avait eu un match de championnat déjà entre Séville et Barcelone, cette fois-ci c'était à Séville, mais on sait que actuellement jouer à domicile a moins de signification. Ils avaient perdu 2-0. Est-ce que déjà ça les avait mis un peu en alerte, ces Sévillans, ou peut-être trop, ils ont été un peu paralysés?
Ouais, ça les avait mis en alerte, ça avait donné un ascendant psychologique au Barça sur ce match, et on sait que sur un match de coupe, c'est particulièrement important, puisque c'est des matchs à la vie, à la mort, il n'y a qu'une équipe qui survit, entre guillemets. Donc oui, moi malgré tout, alors la polémique sur les mains, oui, elle est inévitable, surtout que on accuse le Barça d'être le Varsa en Espagne, hein, bon, on l'a lu, et on accuse le Real d'être dirigé par Florentino Pérez, bon bref, un partout, la balle au centre, mais au-delà de ça, moi je trouve que le Barça est meilleur depuis quelques matchs et Koeman a trouvé, on en parlera sans doute après, a trouvé une formule qui fonctionne mieux, qui sécurise mieux ses lignes arrière qui étaient son point faible, qui donne une équipe plus équilibrée et qui met davantage en valeur le talent de ces deux solistes en duo en attaque, c'est-à-dire Messi et Dembélé. Ça marche beaucoup mieux comme ça, avec un milieu renforcé derrière eux, que ça ne le faisait dans le schéma à trois attaquants qui étaient précédemment favorisés par Koeman. Donc je trouve que c'est un bien meilleur Barça qui ressemble enfin à ce qu'on peut attendre d'une équipe qui s'appelle le FC Barcelone, ce qui n'était pas du tout le cas depuis le début de la saison.
Bruno Constant, le premier but, celui qui sonne un peu la révolte hier, c'est le très beau but donc dans la lucarne de loin d'Ousmane Dembélé. Est-ce enfin la saison qu'on attend de lui depuis qu'il est arrivé à ce club en 2017? C'est, on le sait, un joueur extrêmement fragile. Et d'ailleurs là, on se demande déjà s'il s'est pas reblessé hier soir.
Déjà la bonne chose, c'est qu'il enchaîne les matchs, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps. Et quand il peut enchaîner les matchs, ça redevient un des tout meilleurs joueurs français. Et il l'a montré sur un coup de patte.
Du Barça surtout ?
Non, pour moi, un des tout meilleurs joueurs français du football français.
Un des plus grands talents du football français.
Qui peut même, s'il continue comme ça jusqu'au mois d'avril, ce avril-mai, se relancer dans la course à l'Euro. Parce qu'il était quand même écarté de l'équipe de France depuis un moment.
Vous savez que le journal Sport, il y a quelques jours, avait titré « Oui, il peut ». C'est-à-dire, oui, il peut bien jouer et nous enchanter.
Ouais, pour Dembélé, donc c'est vraiment.
Il n'y a jamais eu le doute sur son talent. Après, c'est de l'exprimer régulièrement, week-end après week-end, ce qui est l'essence même du haut niveau. Mais c'est surtout ce qui monte sur ce but. Ce but, c'est son talent. C'est que sans élan, il est capable de décocher une frappe pleine lucarne à l'entrée de la surface. Voilà, il fait du bien beaucoup.
Il invente des buts en fait. C'est pas un footballeur dans les normes, c'est quelqu'un de totalement hors norme.
Et puis c'est quand même un joueur sur lequel le Barça se reposait beaucoup quand ce collectif était pas bon. Et que lui, sur une action, sur un dribble, sur un coup de génie, il pouvait renverser, basculer la match.
Surtout ces derniers mois.
Surtout ces derniers mois, bien sûr.
C'est surtout un profil de joueur qu'ils n'ont pas forcément. C'est-à-dire que le mec, il percute, il est là, c'était un peu le Neymar qui
Il y avait Ansu Fati, mais il est blessé.
Ouais, c'est ça, voilà.
On pense à Coman aussi, hein, ce genre de joueur éclair.
Et ça va vite, c'est, voilà. C'est technique, c'est
ultra
intelligent.
Fragile.
Ouais, voilà, mais après, la blessure.
Alors, oui, il y avait de la fragilité, certes, et il y avait aussi sans doute un. Parfois,
surtout,
je suis pas un intime, surtout. Mais il y avait un manque de professionnalisme.
Bah oui, c'est ça. De, l'origine.
Il y avait du relâchement, quoi, tout simplement, que ce soit dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation. Et là, visiblement, il semble avoir mûri de ce côté-là, pourvu que ça dure, quoi.
Alors justement, vous parliez de Koeman et de ses choix. Il a dit qu'hier, c'est ma meilleure nuit en tant qu'entraîneur du Barça. La victoire
vous
est-elle...
Que je rentre dans l'alcôve de Ronald Koeman.
Vous étiez là.
C'est ça. Je vous dis
dans
tout de suite, je n'y étais pas.
Dans sa nuit. Alors, Karine Galli y était, hein, mais on la questionnera plus tard. Non, elle était dans la nuit de Koeman. Je ne dis pas qu'elle était plus proche.
D'accord.
Vous êtes bien informé.
Dans la nuit du Camp Nou, où se trouvait aussi Koeman. En tout cas, est-ce que cette victoire est à mettre à son crédit? Patrick Juillard ou aussi de son coaching, parce qu'on a vu qu'au départ, par exemple,
Griezmann
était sur le banc, pardon, exact.
Et
c'est lui qui fait la
et
c'est lui qui fait la passe décisive.
Oui,
pour,
oui, bien sûr. Moi, je trouve que le point faible de ce Barça, c'était surtout la défense. C'est une équipe
qui
concédait,
peut-être toujours.
En tout cas jusqu'à récemment, qui concédait pas forcément beaucoup de buts, parce que quand on joue Eibar ou Huesca, bon, le risque d'encaisser est relativement limité, mais beaucoup d'occasions par rapport à la domination habituelle du Barça contre le bas de tableau de Liga. Moi, même un match contre Alavés récemment où le Barça gagne, je crois, 5-1, mais sur la physionomie du match, le Barça concédait des occasions. Et là, avec cette défense mieux protégée, avec ce milieu à 5, qui aussi sécurise l'entrejeu qui était un peu brinque-ballant avec un Busquets en nette perte de vitesse, ben je trouve que c'est mieux, c'est plus équilibré, c'est pas encore exceptionnel tout le temps dans l'expression collective, mais oui, c'est que ça, ce choix-là qu'on a revu hier, c'est à mettre au crédit de Koeman incontestablement.
Eric ?
Bah, on retrouve aussi un Piqué qui, même s'il est vieillissant...
qui est plus un Piqué, justement.
J'allais dire, ramène un peu plus de déjà
sur le banc
d'expérience.
De nouveau, malheureusement, il s'est blessé, il s'est tordu genouillère. On l'a vu en fin de match, il a tenu, mais il tiendra plus.
C'est certainement aussi c'était la bonne nouvelle pour le complément. On a besoin d'expérience et de jeunesse.
On a bien vu, par exemple, au Real Madrid, on a bien vu ce duo, quand Ramos n'est pas là, Varane n'est pas toujours très bien, alors que
oui,
les
vrai.
Deux ensemble sont
Exactement.
Très forts. Et on avait eu l'impression au début de saison ou l'année dernière que Piqué, l'anglais, ça fonctionnait bien,
ouais.
Mais que l'anglais tout seul, c'est compliqué.
C'est un petit peu vrai. Il y a peut-être pas autant de sérénité du côté de Varane
d'être
ou de
seul,
l'anglais.
Voilà.
Ils ont besoin d'un homme fort. Ils sont très forts avec un homme fort et beaucoup moins de caractère quand ils se retrouvent tout seuls à devoir... chapeauter un petit peu la défense, c'est vrai, on retrouve un peu la similitude dans les deux.
C'est d'autant plus inquiétant si la blessure de Piqué, qui a l'air assez importante, se confirme. En tout cas, il est très incertain déjà pour Paris.
Oui.
Et peut-être même pour quelques semaines.
Et si ça tombe. Et si ça d'une blessure grave au genou.
Mais ça va être un coup dur énorme parce que
C'était le ménisque, je ne me trompe pas, il s'était fait opérer récemment.
Ouais. Mm-hmm. Mais si vraiment. Parce que là, ça va changer les plans une nouvelle fois de Koeman. Cette défense. Pour moi,
ça risque d'être De Jong qui va
glisser derrière. Le succès de ce système, pour moi, certes, il y a le milieu, mais surtout la défense à 3. Parce que justement, la défense à 2 ne fonctionnait plus. Et si on retire un des 3 pour revenir à une défense à 4, ça risque d'être catastrophique. Parce que ça reste pour moi le point faible de cette équipe.
Alors justement, le PSG qui a gagné le 16
J'ai
février...
J'ai pas entendu, vous avez dit quoi?
Le 16 février dernier au Camp Nou, un 4-1. Est-ce que ce PSG doit trembler après cette nouvelle remontada du Barça? Ronald Koeman n'ose pas y croire ou il fait semblant de ne pas y croire?
Bueno, 2-0 es más fácil. Bueno, tampoco es fácil.
2-0, c'est un score plus facile à remonter, même si ça n'est pas simple. Mais un score de 4-1, c'est autre chose. En plus, le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Après, on verra au cours de la rencontre si c'est possible. Sinon.
Sinon, hay que aceptarlo y seguir en el mismo camino.
Alors sinon, on a laissé en blanc, on l'a laissé, hein, on a fait exprès. Est-ce que c'est une fausse modestie ou c'est du réalisme batave?
Non, je pense que si ça doit se passer, ce que je ne crois pas, mais si ça doit se passer, il vaut mieux pour lui dire non, c'est pas possible. Comme ça, l'adversaire est moins prêt à vivre ça que si dit oui on va se battre pour moi j'ai pas d'inquiétude comme avant.
Eric, oui. Je pense que vu le passé et le passif du PSG en Ligue des Champions, j'espère que les joueurs envisagent cette hypothèse. Il faut jamais envisager l'échec, mais il faut tout de même ne pas se voir trop beau et rester sur ses gardes.
C'est pour ça que je suis moins inquiet maintenant. D'abord Pochettino est là. C'est-à-dire qu'il va mobiliser.
Baguette magique.
Non, mobiliser tout le monde. Moi, j'ai trouvé que la différence là-bas, sur ce match du Barça. Alors, certes, le Barça n'était pas extraordinaire, mais néanmoins, le Paris Saint-Germain a dégagé de la sérénité et mentale et dans le contrôle.
Oui, mais on le connaît, le Paris Saint-Germain. Sur un one-shot comme ça, on se souvient du 4-0 il y a quand même un certain traumatisme face au Barça.
Je pense que moi je suis vraiment moins inquiet par rapport à ce qu'on aurait pu la réalité, je sais que c'est possible et que voilà, on l'a montré que c'était possible, mais néanmoins je suis pas inquiet du tout.
Bruno, Constant,
c'est quand même pas tout à fait les mêmes conditions non plus. C'est la remontada, c'est au Camp Nou, un Camp Nou qui était plein craqué
le Barça qui va venir est meilleur que celui du 16 février dernier.
Forcément, un peu meilleur.
Mieux organisé, en tout cas.
Un peu meilleur, mais honnêtement, pas beaucoup plus non plus. Cette qualification face à Séville, ça passe quand même vraiment en toute fin de match.
Parce que Séville a aussi été...
Parce que Séville n'était pas très bon, parce que Séville a reculé, qu'ils ont assiégé le but, et voilà. Ça s'est joué sur un coup de patte, mais...
On se souvient d'un certain PSG face à Manchester United.
Par rapport aussi à la précédente remontada, la remontada historique, le PSG a enfin... un gardien de but de classe mondiale, ce qu'il n'avait pas à l'époque.
Et une charnière centrale.
Et une charnière centrale qui est vraiment le socle de cette équipe.
Et Buffon était un gardien de classe mondiale.
Il avait été un gardien de classe mondiale, mais à l'époque où il est arrivé au PSG, il était quand même sur la pente descendante, surtout physiquement. Là, Navas, il est en pleine force de l'âge, il est au sommet de son art.
En tout cas, je peux vous dire que la presse catalane commence à y croire, en tout cas dans ses colonnes. Alors, c'est peut-être pour vendre des exemplaires, n'est-ce pas ?
Un peu.
Mais ils vont peut-être trop vite en besogne, mais ça va chauffer là d'ici mercredi prochain. L'ambiance va commencer à être
On va faire le point sur les blessés barcelonais déjà. Et puis après, on verra.
Bon, Barça, en tout cas, sera peut-être sans Piqué, sans Dembélé, mais du côté du PSG, on devrait aussi être sans Moïse Kine.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est
sûr. Et sans Neymar, pas sûr.
Le protocole UEFA fait que c'est sûr qu'il jouera pas contre le Barça.
Même
c'est
s'il
sûr.
Était déclaré.
C'est 13, c'est 10 jours.
Alors on a 10
donc
jours.
10 jours, c'est mort.
Ce sera pas avant vendredi de la semaine prochaine.
Donc ouais. Donc il jouera pas, c'est sûr. Di Maria devrait revenir déjà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Neymar, vu le calendrier parisien, si c'était moi. Je mettrai pas Neymar et je garderai Neymar pour jouer Lille
pas
et Lyon derrière.
De risque, oui.
Lille et Lyon derrière qui sont aussi très importants que de prendre le risque de le mettre et
théoriquement avec 3 buts d'avance.
J'allais dire. Bon. Après c'est embêtant de pas avoir Kean parce que Kean a été important au match aller.
T'as déjà gagné 4-1 sans Neymar. Je pense que tu veux te passer de Neymar au match retour et même de Kean parce que t'as dit Maria qui revient.
Ouais.
Donc c'est quand même. Je pense qu'ils ont quand même l'effectif et l'équipe pour gérer un avantage de 3 buts quand même.
Bon, ben la Ligue 1, justement, le PSG est toujours sous bonne escorte.
Rodman, c'est bien joué pour Araújo. Il connaît qui se retourne. Il connaît la frappe, il connaît l'arrêt de Mandanda de temps. Ouais. Le but pour les Lillois. Le but du LASK. Monsieur Turpin qui siffle la fin de ce match et cette victoire du LOSC, 2-0, le doublé de Jonathan David. 2-0 le LOSC qui reste en tête de ce championnat de France de Ligue 1.
Des dogues devant et des lions derrière, le PSG est toujours encadré par deux équipes qui prétendent clairement au titre de champion de France. Hier soir, les trois équipes ont gagné, petitement certes, mais elles ont toutes gagné. Lyon d'abord, vainqueur à Rennes avec un but signé Oussem Aouar. Ensuite,
de Rennes, c'était à Lyon.
Ah oui, c'était à Lyon.
Pardon, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, vainqueur en tout cas de Rennes. Ensuite, le PSG, c'est parce qu'il y avait un Lyonnais sur le banc.
Il y a du public nulle part, donc on peut
confondre. Ensuite, le PSG qui s'est imposé à Bordeaux grâce à un but de Pablo Sarabia. Mais Lille, alors on entendait, hein, ces Lillois, ils ont bien failli ne pas l'emporter avant de marquer donc deux buts en quelques secondes à un pauvre Steve Mandanda et des pieds du Canadien Jonathan David. Écoutez bien, il est même philosophe.
On savait que c'était un match décisif et on s'est battu jusqu'à la fin, franchement, et je suis content qu'on a eu les 3 points aujourd'hui. C'est vrai que dernièrement, on n'a pas eu le meilleur résultat, ni les résultats qu'on voulait. Alors c'est sûr avec ce match aujourd'hui qu'on a pu gagner sans... On remet le bateau dans le bon chemin.
Voilà, remettre le bateau dans le bon chemin. C'est ça, du canadien. Ouais. Donc, on a les proverbes africains, on a les proverbes canadiens sur cette antenne. Bon, il a remis le bon cap, disons. Ils ont remis le bon cap, ils vont tenir cette distance et c'est 2 points d'avance sur le PSG, Eric.
C'est passionnant, en tout cas. Moi, je suis content d'avoir une fin de championnat comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça et c'est quand même super encourageant, d'abord pour la Ligue 1 et aussi pour le Paris Saint-Germain.
Parce qu'on a l'impression qu'un peu, chacun tour à tour, fait un faux pas en fait, on a vu surtout que
hier Monaco à Strasbourg hier
ils ont peut-être perdu le fil hier
non voilà il y a c'est intéressant parce que quand on voit la physionomie un petit peu des matchs là on voit le but de Lyon, c'est un but aussi à l'arrache, c'est-à-dire qu'on voit Depay qui va se battre pour aller récupérer ce ballon qui donne au dernier moment à Aouar. Voilà, ça c'est des buts de, on voit Lille pareil, relâchement du ballon par Mandanda, donc tout le monde a vraiment envie de d'aller au bout. Quand on voit Galtier qui fout un coup de pied dans une bouteille là sur le côté parce qu'ils arrivent pas à faire la différence contre, bah voilà, c'est fantastique, c'est ça en fait, c'est ce qu'on a envie de voir sur le championnat de Ligue 1 et puis en plus c'est deux bonnes équipes quoi.
Bruno, ils vont tenir ces 2 points, Lille encore longtemps parce qu'il reste 10 matchs.
Si je le savais, je parierais.
Non, mais
on voit toutes les équipes souffrent là. Elles sont en train de vraiment de tirer la langue. On est vraiment dans les mois difficiles.
Il y a des hauts et des bas.
Sorties d'hiver, février, mars, c'est compliqué. Je trouve que Lille souffre pas plus que Lyon, qui a beaucoup moins de marge que les précédentes semaines.
Et qui a joué la Coupe d'Europe, Lille.
Oui, et que le PSG qui est pas collectivement pas très impressionnant, alors que Bordeaux était en grande difficulté, il gagne 15-0.
Ouais,
Monaco a un coup d'arrêt, mais c'était logique, puisqu'ils sortent d'une série tellement exceptionnelle, il fallait bien qu'à un moment donné ça s'arrête. Et en fin de compte, si on regarde sur les 5 dernières journées, Lille est à 11 points, le PSG à 12 et les deux autres à 10. Donc ça reste quand même dans un mouchoir de poche. Et je trouve pas que Lille souffre depuis un moment. Franchement, depuis un moment, il y a eu 2 nuls consécutifs.
Bah, Christophe Galtier l'a dit la dernière fois assez crûment.
Ouais, il y a les 2 nuls consécutifs, l'élimination contre l'Ajax, et puis c'est ce match douloureux face à l'OM. Mais c'est le propre d'un sprint final, c'est que ça se joue sur des détails, sur rien. Et là, quelque part, l'expérience peut faire la différence. Et je pense qu'il y en a un peu plus du côté du PSG et de Lyon.
Oui, le PSG, il me semble que c'est l'équipe qui a le plus de marge sur ses talents individuels. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui, même, on l'a vu hier, même sans tous les joueurs qui manquaient, notamment le trio offensif, malgré ça, Sarabia ressort de sa boîte et se rappelle un autre bon souvenir au bon moment pour son club. Donc c'est l'équipe qui a peut-être le plus de marge à ce niveau-là, même si vous avez raison, collectivement, c'est impressionnant comme ça pouvait l'être les saisons précédentes. Maintenant, Lille, ce qui est encourageant, c'est vrai qu'ils marquent un peu le pas dans le contenu, mais si on regarde les derniers matchs, ils prennent beaucoup de points et ils marquent beaucoup de buts dans les toutes dernières minutes. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est une équipe de combattants, une équipe qui lâche rien. Et on l'a vu à Strasbourg, ils sauvent un point à la toute fin du match, alors qu'ils étaient partis pour perdre. Strasbourg qui est plutôt en forme, on l'a vu hier contre Monaco, et pareillement contre l'OM, ils se sont battus jusqu'au bout, ils auraient pu renoncer, et bon, Mandanda les a aidés, mais ces petits coups de pouce du destin, c'est le signe d'une équipe qui voit grand. Ça n'arrive, il faut le provoquer, le destin. Donc encore faut-il pousser jusqu'à la fin pour provoquer les erreurs adverses. Donc je serais bien en peine de vous dire, le calendrier va être important parce qu'il y a des matchs charnières. Le PSG va jouer
Le prochain match
à Lyon.
Ensuite, je dis pas de bêtises, c'est Lille-Monaco.
Il y a Monaco-Lille. Les trois prochaines journées, il y a 3 confrontations directes les 4.
Donc, ça risque d'être déterminant.
Il y aura Lyon-PSG dans 2 semaines. Et PSG Lille
juste derrière.
Donc ça va jouer là. Moi je pense
que
les 3 prochaines journées,
il y a Lyon Lille et Monaco Lille également à 3-4 journées de la fin. Donc c'est vraiment à mon avis là-dessus que ça va jouer parce que le PSG
si les titulaires reviennent normalement les PSG avec les talents qu'ils ont, ils peuvent finir sur une série de victoires consécutives et éteindre tout le monde. Mais c'est compliqué.
Justement, Bruno, Monaco qui a perdu hier à Strasbourg 1-0, ils sont donc à 4 points des Lyonnais, ils sont 4e à 4 points. Est-ce que ils sont décrochés?
Ils le sont forcément, par la force des choses, mais après c'est quand même l'équipe un peu surprise, Monaco. On les attendait vraiment pas à ce niveau-là.
Pas du tout.
Et je trouve qu'ils ont une richesse d'effectifs qui leur permet aussi de peut-être espérer. quand il y a Fabregas sur le banc, Golovin sur le banc et qui joue le match suivant, les deux là, c'est quand même deux joueurs Jovetic d'expérience, également. De talent. Jovetic et devant, ça peut alterner. Ils ont trois attaquants avec Goland.
Il y a Diata qui est arrivé, qui peut remplacer Diop. Enfin, c'est vraiment.
Ils ont vraiment une vraie richesse d'effectifs par rapport à Lille, par exemple.
Moi, sur le match d'hier que j'ai regardé en particulier, je suis les clubs de ma région natale. J'ai trouvé Monaco un petit peu timoré et j'ai trouvé que Monaco subissait, c'était recroquevillé sur son but. Je pense que Kovac avait l'ambition de contrer cette équipe de Strasbourg, de la prendre à son propre jeu. Et finalement, Monaco a beaucoup trop laissé le ballon. Il y avait une sorte de défense à 5 et devant elle, un grand trou dans lequel les Strasbourgeois ont combiné, déferlé, se sont engagés. Et Monaco n'a pas trouvé la réponse pour aller contre ce match qui partait dans le mauvais sens pour eux. Je trouve que là, je sais pas si c'est Kovac ou ses joueurs qui ont perdu les pédales, mais c'était pas un bon Monaco hier soir.
Eric,
ils s'en sortent bien, même parce qu'ils doivent prendre au moins un ou deux de plus. Là, ils ont vraiment eu chaud. Ils doivent prendre. Ouais, je pense que s'ils perdent 3-0, il y a pas grand chose à dire. Vraiment.
On se souvient en début de saison, ils avaient comme ça des
failles. Mais en début de saison, les deux jeunes en défense centrale, c'était très compliqué. En fait, c'était vraiment la faiblesse de cette équipe de Monaco. Et puis il a rééquilibré tout ça. Mm-hmm. Et maintenant, alors. Moi, j'étais vraiment impressionné sur le match de contre Paris, où Monaco, franchement, c'était sans appel. Paris a été mangé dans tous les sens et a été incapable de trouver la solution contre ce Monaco. Je me suis dit, cette équipe, elle va être dure à. Et puis quand je la vois enchaîner derrière,
ce qui est ennuyeux pour Monaco, on n'en parle pas souvent de ce point-là pour la course au titre, mais des quatre équipes à la lutte, c'est celle, à mon avis, qui a le gardien de but le moins rassurant et le moins décisif. Ouais. Lecomte, qui n'est pas un mauvais gardien, techniquement parlant. Je trouve que depuis qu'il est arrivé depuis Montpellier, il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait à Montpellier. C'est peut-être pas un gardien fait pour avoir que un ou deux arrêts par match. C'est plutôt un gardien qui est fait pour être chaud et être très sollicité. Donc, c'est ma réserve par rapport à Monaco qui, défensivement, à mon avis, est trop fragile pour viser le titre.
C'est ça.
Ouais, puis il faut se souvenir où était Monaco la saison passée. Enfin, c'est un miracle de les voir à ce niveau-là. Et c'est encore un puzzle qui est en train de se construire.
Oui.
Et s'ils finissent déjà dans les quatre premiers, c'est déjà une super saison pour les Monégasques.
Alors, ceux qui ne visent plus le titre, c'est Marseille. L'OM, sale soirée hier, donc, alors que s'achève l'intérim de Nasser Larguette, qui dirigeait son 8e match. Sans doute fera-t-il le match de... Ça, c'était peut-être son dernier match de championnat. Il fera encore celui de Coupe de France.
Coupe ce week-end, entre le Canet en Roussillon.
Ah, il est chambreur, le Parisien.
Excusez-moi.
En tout cas, écoute, on le capitaine Steve Mandanda. Il avait le ton de la déception.
On tenait, on avait fait un match assez solide défensivement et sur une erreur on concède ce but qui tue complètement tous nos efforts, donc on est déçus et voilà, c'est dommage, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. On sait qu'aujourd'hui l'objectif c'est d'essayer d'atteindre cette cinquième place parce que devant ça va beaucoup trop vite pour nous. Il y a un nouveau coach qui va arriver, on verra comment ça va se passer. Essayer de bien terminer cette saison et puis repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements la saison prochaine.
Beaucoup de changements, on va revenir au beaucoup de changements. Mais il dit aussi objectif 5e place. C'est déjà énorme comme objectif, Bruno.
C'est important.
Ils sont à 5 points pour
l'instant. C'est important qu'il le rappelle parce que parfois quand on regarde ce qui se passe à Marseille, on a l'impression que la saison est déjà finie, qu'on pense déjà à la prochaine, qu'on va installer un nouvel entraîneur, qu'on va travailler le prochain effectif.
Ils ont installé un nouvel entraîneur.
Dans les discours qu'on a parfois du côté de Marseille, on a vraiment l'impression que la saison est finie en fait. Et c'est bien qu'il le rappelle parce que l'OM à ce niveau-là, où ils sont aujourd'hui, c'est catastrophique.
Il reste 10 matchs, hein. C'est pas rien.
C'est pas rien, mais il va falloir qu'il les joue. Il va falloir qu'il se mette à les jouer parce que même contre Lyon, moi j'étais déçu en supériorité numérique.
Oui.
Cet OM-là, il doit faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré face à Lyon. Et là, ils étaient encore une fois décevants. On parlait de Mandanda.
À l'heure actuelle, je parle pas en talent.
Moi, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Je pense que c'est une équipe qui est trop sur le côté psychologique et qui se laisse aller. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent à la saison prochaine.
Sur le côté psychologique, parce que depuis le début de saison, où ils caracolaient.
Moi, je suis pas sûr
qu'il
y ait des joueurs qui ont le caractère pour, tu vois, rectifier. Marseille, c'est compliqué. C'est un climat particulier. Si t'as pas des joueurs avec du caractère,
ça, on le sait. Ça, on le sait quand on signe à l'OM.
Mais
l'excuse.
Mais évidemment.
Et j'ai l'impression que trop se repose sur cette excuse. Et c'est trop facile.
Vu tout ce qui s'est passé dans le club aussi ces derniers temps, Bruno, c'est peut-être.
Ça a toujours été comme ça, l'OM.
En fait, il y a eu tellement de dissensions extrasportives cette saison que Et les joueurs doivent, ça polarise un peu les joueurs, ils peuvent plus tirer tous dans le même sens, mais ça se voit sur le terrain.
Moi je suis pas d'accord, je regardais les jeunes joueurs, regardez au milieu de terrain le petit Gueye, je suis désolé, lui pourrait subir la pression. Mais il fait ses matchs.
Oui, mais il vient d'arriver.
C'est différent.
Mais non, c'est un jeune joueur. Lui pourrait subir la pression. Il ne la subit pas.
Les joueurs qui subissent le plus, c'est les anciens. Les plus impliqués. C'est les anciens et c'est eux qui sont les moins bons.
Mais c'est eux qui sont les mieux armés. Mais c'est eux qui sont les
moins bons. C'est ceux sur qui tu dois t'appuyer.
Exactement.
Mais ils ne sont pas là parce qu'il y a eu toute cette histoire de l'étalage des divergences entre Thauvin et Payet. Il y a eu l'histoire des supporters qui sont attaqués à certains joueurs pendant l'invasion de la commanderie.
Patrick, ça aide pas.
Non, mais moi, je suis pas là pour excuser l'OM. Non,
Payet n'a pas attendu les soucis extérieurs avec les supporters pour ne pas être performant sur le terrain.
Oui, mais après,
c'était le cas la saison passée. Il n'y avait pas de problème dans les
statuts aussi. Il y a des totems d'immunité qui n'ont pas sauté. Et Payet a joué beaucoup de matchs alors qu'il n'avait pas la condition physique requise. Bon,
c'est facile.
Là, il n'y a pas les joueurs avec le caractère pour jouer. Là, un Thauvin, un Payet, c'est pas du tout des joueurs pour Marseille. Même si Thauvin a du talent, il a du talent. Mais là, tu as besoin de joueurs qui ont du caractère, qui sont là pour subir cette pression. Elle est importante, la pression, mais en fait, c'est les résultats qui font derrière. Tout le monde va te suivre. Si tu as des résultats, tu auras moins de pression
Patrick, justement,
tu dois être capable de subir. Thauvin, il disparaît sur les grands matchs.
Et
c'est pas possible.
Payet,
il pense que parce qu'il va faire un éclair de 5 minutes dans un match, ça va suffire. Non, ça suffit pas.
Et encore, avec la pression, pour être bien pire, il n'y a personne
dans les stades.
Il
n'y
a pas de pression dans les stades.
Ils ont attendu au centre d'entraînement, mais bon. Mais justement, on commence à entendre des bruits autour du projet Longoria, le nouveau président désormais de ce club. On dit que ça serait sans Payet, qui a été renouvelé l'été dernier par Jacques-Henri Hérault. Ça serait aussi sans Mandanda, qui est là depuis 2008, si je ne me trompe pas.
Il va falloir le vendre.
En gros, c'est un petit peu ambiance que les gros salaires lèvent le doigt à l'OM. Là.
Est-ce que c'est faire table rase du passé pour Longoria ou est-ce qu'il
va faire autrement ? Il veut donner le ton d'un projet basé davantage sur la prospection et le recrutement de jeunes talents. On voit l'arrivée d'un joueur comme Lirola.
Mais ils vont se séparer de Nasser Larguet, véritablement.
Nasser Larguet, bon, alors effectivement, il a eu, si on peut revenir sur lui, il a fait 7 matchs de Ligue 1. Le total, c'est 7 8. Points. Non, il y a eu un match de coupe qui a été gagné à Auxerre. Mmh. Mais en Ligue 1, il y a 7 matchs, 21 points. 7 points sur 21 possibles, c'est pas énorme. Mmh. Dans l'attitude, il a eu le mérite de remettre certains joueurs à leur poste, de faire des choses un peu plus cohérentes que sur la fin de l'ère Villas-Boas, mais on peut dire qu'il a apaisé les choses, oui. Mais
techniquement,
il n'a pas donné un nouveau souffle à l'équipe.
Il a surtout relancé des jeunes.
Il semblerait qu'il soit sur le départ.
Oui, apparemment, il irait du côté de Caen.
Qui est son club de cœur, un petit peu, en France.
Donc,
il est normal.
Ce qui est inquiétant sur le projet soi-disant Longoria, c'est qu'on parle de séparer des gros salaires. Mais les gros salaires, Payet.
Non, mais c'est même pas les gros salaires, là, je crois, en l'occurrence.
On parle de Payet, par exemple. On parle de
Payet. Ceux qui répondent plus, peut-être.
Non, mais on parle de Payet. Payet, il a un contrat, il a prolongé, je crois, 2023, 2024, quelque chose comme ça.
C'était Marseille à vie et il devait rentrer dans le staff de l'équipe.
Non, mais à quel moment un club va venir pour soit acheter Payet, soit l'OM lui payer son contrat? C'est impossible. Donc là, on est vraiment dans l'utopie. C'est encore des beaux discours. Et pour l'instant, il n'y a rien de réaliste.
Il n'y a pas eu de discours, c'est des rumeurs.
Moi, je pense qu'ils vont lui mettre la pression pour partir.
Tu
as dit tout à l'heure, Annick, il joue la cinquième place. Mais si tu déjà t'annonces que tu ne vas pas tenir sur Mandanda, sur ta cinquième place, tu ne l'auras jamais. Hein. C'est les mecs qui vont commencer à penser à se barrer. Hein. Mais c'est sûr et certain. Donc tu ne peux pas annoncer un projet comme ça alors qu'il te reste 11 matchs à jouer dans le championnat, même si tu sais que c'est fragile.
C'est le problème du choix d'un nouvel entraîneur plein mois de mars, comme ça, février en l'occurrence. C'est pas un bon timing. On est à contre-temps, comme souvent avec cet OM, là, malheureusement.
Bruno, la visite de Franck McCourt, alors on l'a vu débarquer, là, tel un Américain. Là. Il n'avait pas son chapeau de cow-boy, mais on aurait dit.
Hein.
Le redresseur de tort. Et puis, alors, il suit l'équipe, il va au vélodrome. Il était à Lille hier soir. Bon, après, il est rentré à Paris en jet privé, mais. Il fallait faire escale. Est-ce qu'il était en opération séduction un peu trop tardive ?
Il était en opération totalement surréaliste. Quand vous relisez l'interview aujourd'hui dans l'équipe où il vous parle de la comparaison avec le Bayern de Munich,
le Real Madrid,
de gagner la Ligue des Champions et que
il revient avec le Champions
Project, des petits moyens, on est capable de faire des grandes choses avec des grandes idées. J'ai l'impression que cet homme...
Il ne sait pas de quoi il parle.
Mais non. Mais de toute façon, ça a toujours été le cas avec les Américains. Hein,
Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est sur un modèle américain, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur l'image.
On met de l'argent, donc ça marche.
Lui, il envoie des trucs qui sont super intéressants.
Ils vendent du rêve, oublié.
Ouais, c'est du rêve.
Il a oublié que le parcours en Ligue des Champions du début de saison, il te ramène à la réalité. Donc, ça manque d'humilité. C'est-à-dire que plutôt que de se remettre à bosser et de se dire, voilà... On s'est trompé, on repart sur un projet sérieux où on va prendre des joueurs qui sont avec l'état d'esprit qu'il faut pour ce club et les qualités.
De toute façon, la cinquième place, c'est pas la Ligue des Champions.
Pour les finances du club, c'est impératif qu'ils aient l'Europa League. Hein.
J'allais dire, c'est un peu, ouais. ça correspond un peu plus au standing.
Il est à contre-temps, en tout cas. Et là, cette interview qu'il donne ce matin dans l'équipe, elle vient après d'autres interventions où là, c'était plutôt le discours demander à Pablo. Là, on a l'impression qu'il s'est aperçu que c'était un peu ridicule et qu'il a voulu donner le change. Il s'est laissé aller tout seul et ça fait un petit peu
ça fait désordre.
Artificiel, quoi, tout ça.
Allons vers l'Angleterre pour changer un peu.
Hi Hugo, congratulations with your 100th Premier League clean sheet.
Yes Hugo, how are you doing mate? 100 clean sheets in the Premier League.
Congratulations on your achievement.
Hugo, huge congratulations and welcome to the 100 club.
How's that feel?
To listen that type of comment, it touched my head, no, obviously.
Dreams come true, right?
I was right.
Hugo Lloris, tout heureux avec cet hommage que lui ont rendu ses coéquipiers. Le grand Hugo Lloris venait d'accomplir son 100e clean sheet, son 100e match sans encaisser de but en tant que, évidemment, gardien de Tottenham. Son entraîneur José Mourinho, dans les louanges qu'on entend, là, à un moment, il y a Mourinho qui place Hugo Lloris parmi les 3 meilleurs gardiens du monde. Il a raison ou il exagère, Bruno?
Là, sur les dernières semaines, non, clairement pas. Il n'est pas dans les meilleurs gardiens du monde. Il est un peu en difficulté. Une période un peu
Tottenham
difficile.
Aussi en difficulté. Hein.
Après, moi, je considère, oui, parmi les 4-5 meilleurs gardiens au monde, et il suffit de voir sa dernière Coupe du Monde, il a été exceptionnel. Mm-hmm. Et je pense
Là, il est français, il n'est pas Tottenham.
Non, mais si on parle de gardien du monde.
Non, bien sûr.
Dans les 5, ouais.
Non, mais...
Dans les 3, non.
Parce que là, les 100 clean sheets, c'est avec Tottenham hein, en tant que sport.
Oui, oui, oui. Non, après, voilà, là, c'est bon, c'est du Mourinho qui balance un peu les compliments parce que ça va un peu mieux, mais c'est compliqué à Tottenham en ce moment. Honnêtement, il y a la dernière victoire contre Burnley qui a été belle. En plus, Gareth Bale a brillé, mais on est plutôt incroyable. Dans les tensions à Tottenham. On est plutôt dans les questionnements sur savoir si Mourinho doit continuer à la fin de la saison.
Tiens.
Parce que le projet Mourinho, s'est passé sur son retour à Chelsea ou à Manchester United.
Son projet, c'est de gagner la Ligue Europa. Quoi.
Ouais, mais ça marche pas en championnat pour l'instant. Et
il peut,
un des objectifs est effectivement de gagner un trophée. Il peut encore le faire avec l'Europa League ou la finale de la Coupe de Ligue face à City. Mais c'est surtout de revenir en Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils en sont assez loin.
Mais s'il gagne la Ligue Europa, il sera qualifié.
Oui, bien sûr, mais c'est plus aléatoire. Mmh.
C'est ce qu'il avait déjà fait avec Manchester United. Mmh. Une année où en championnat, ça marchait pas, mais il avait gagné la Ligue Europa en battant l'Ajax en finale. Cette année, il y a de belles équipes en Ligue Europa encore, qui sont rescapées encore. Donc ça va pas être simple.
Pour la plupart, récupérer de la Ligue des Champions.
Voilà,
ça va pas être simple.
Mmh.
Alors en tout cas, en haut de classement, bon, on a évidemment City qui continue à s'échapper et à marquer des points. Mais deux équipes ont fait du surplace, c'est Manchester United, un nul 0-0 face à Crystal Palace, et puis Leicester City 1-1 face à Burnley. Alors des points lâchés qu'on peut peut-être vite regretter. Écoutons l'entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, lui, il calme le jeu.
J'ai toujours dit que nous ne pouvons pas nous considérer comme faisant partie du Big Four tant que la saison n'est pas terminée. À ce moment-là, nous pourrons en parler. Nous devons donc continuer à travailler tous les jours en donnant le meilleur et penser seulement au prochain match. C'est ce que nous faisons. Tout le monde parle de blessés de dernière minute. Nous devons faire avec. C'est malheureux pour nous, mais le groupe est brillant. Il va continuer à se battre.
Ça va être une vraie bataille pour Leicester de rester dans ce Big Four.
Ouais, ça va être très très compliqué. On a un peu la même saison que la saison passée. où Leicester a fait une première partie de saison exceptionnelle. Mmh. Et puis sur la deuxième, il s'était écroulé.
C'est souffle.
Sous le poids notamment des blessures. Et là encore cette saison, c'est une hécatombe. Là, depuis quelques semaines, ils ont 5-6 titulaires qui sont absents. Ils ont perdu Maddison, qui était leur créateur. Harvey Barnes, le dernier, qui était un des joueurs en forme. Le petit Fofana, qui était sans doute son meilleur défenseur. Donc c'est compliqué. Et voilà. Et puis la concurrence est terrible en Première Ligue avec Tottenham, Chelsea, Liverpool. Qui sont décevants depuis le début de la saison, mais qui ont une ambition absolue d'être en Ligue des Champions au niveau des finances. Enfin, c'est capital. Et Leicester, c'est, je vais pas dire que c'est le petit pousset parce qu'ils ont été quand même champions d'Angleterre il y a pas si longtemps. Mais c'est une équipe qui monte en puissance et qui aujourd'hui est un vrai candidat au top 4 et sur la saison mériterait de finir dans les 4 premiers. Et c'est l'équipe qui est restée le plus longtemps sur le podium, par exemple.
Et ils auraient dû faire des points face à Burnley. Donc.
Et c'est une belle équipe, franchement. C'est une très, très belle équipe. Mais à un moment donné, quand il vous manque 5-6 joueurs de votre équipe de départ, bah, c'est plus compliqué, quoi.
Patrick ?
Oui, c'est ça. Et je pense que Leicester, en cette période difficile avec pas mal de blessés, paye aussi son manque relatif de profondeur de banc par rapport à ses concurrents qu'on a cités, Liverpool, City, United,
tout ça.
Par exemple.
Même Chelsea, même si leur profondeur de banc ferait beaucoup d'envieux en Ligue 1.
À Marseille, notamment. Super effectif. Oui, certes, je suis bien d'accord. Ouais. Voilà, donc je pense que ça joue. Après, Leicester, c'est un club avec un mécène qui met beaucoup d'argent et donc qui peut garder longtemps ses bons joueurs et donc construire sur la durée. Donc, ça ne veut pas dire que si jamais, malheureusement pour eux, ils échouent à se qualifier cette saison en Ligue des Champions, il y aura une saignée énorme cet été et que tous les cadres vont partir. Je pense que c'est un club qui, comme le Napoli en Italie, peut construire sur la durée avec un effectif stable et donc le meilleur est peut-être à venir, en fait.
Ils sont quand même beaucoup dépendants de leur entraîneur aussi, Brendan Rodgers, qui est un excellent entraîneur. Et dont
on se souvient de lui à Liverpool, justement.
Oui, et dont on parle du côté de Tottenham, peut-être pour remplacer Mourinho.
Ah. Ouais, lui, on a fait des clubs.
Ça serait un gros changement, effectivement.
Ça passe et ça change. On suivra évidemment cette Première Ligue, parce que ce qui est intéressant, il y a notamment les matchs ce soir avec ce Chelsea-Liverpool entre Tuchel et Klopp. Ça, c'est aussi un match dans le match.
Le Germain-Nouvaille.
on peut inventer plein de termes. L'Angleterre, sera-t-elle terre d'asile pour l'Euro 2020, désormais joué en 2021 ou prévu en 2021? On en saura plus ces prochains jours de la part de l'UEFA, mais à 99 jours donc du coup d'envoi de la compétition, puisque ça sera le 11 juin prochain. A priori, les organisateurs, eh bien, ont peut-être de quoi s'arracher les cheveux. La compétition est déployée, je vous le rappelle, sur 12 villes, alors à travers le continent européen et même en dehors, si on pense à Bakou. En temps de pandémie, avec de multiples régimes sanitaires, avec diverses bureaucraties pour entrer et sortir des pays, l'UEFA peut-elle encore changer le cadre de sa compétition? Patrick Juillard, on sait qu'il y a des propositions, et notamment Londres. Alors, je ne dis pas qu'ils sont candidats,
oui,
mais
attention.
En tout cas,
ils
ne sont pas vraiment candidats.
En fait, voilà. C'est le Premier ministre Boris Johnson qui a dit que l'Angleterre pourrait accueillir les matchs. Mais la Fédération anglaise a répondu très vite, non. Et l'UEFA a confirmé. Il dit non, ils n'ont pas les moyens en temps pour organiser ça, c'est pas possible. Ouais.
Non, mais impossible.
C'est pas possible. Ah oui, non, pour eux c'est beaucoup trop tard pour organiser.
On le voit avec avec le rugby et le Six Nations. Ce type de compétition en temps de pandémie, il faut un semblant
qui
de
qui ne concerne que trois pays en plus.
Six, mais
non, nations, oui, mais trois
certes.
Pays, oui, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Italie et la France.
Si vous voulez, il faut qu'il y ait un semblant de bulle sanitaire. Et si on est déployé sur 12 pays comme ça, c'est ingérable.
C'est impossible.
Oui, avec la multiplication des déplacements.
On pense au tournoi de France,
si
bien sûr.
Voilà, dire, même si tu supprimes le déplacement des supporters, parce que
certains pays vont demander des septaines avant l'entrée sur leur territoire. Donc et il n'y aura sûrement pas de dérogation pour l'euro. Il n'y a pas de raison. Donc je pense que l'UEFA a intérêt à réfléchir à une formule plus ramassée. Je sais pas, dans un seul pays.
Alors la Russie,
un peu formule Ligue des Champions.
Ligue des Champions sous une sorte de cloche de bulle sanitaire.
Sauf que l'Angleterre.
Ce sera pas gérable. Ah oui, l'Angleterre, c'est peut-être pas la solution.
Notamment Wembley, il y a 7 matchs qui vont se disputer à Wembley, dont les demi-finales et la finale. Ils veulent pas lâcher cet euro. Donc ça paraît compliqué. Il y a des enjeux aussi financiers derrière tout ça.
Oui, mais pour chaque ville. Oui, il y a des enjeux financiers, mais le problème, c'est
quand
même.
Pour les nations, c'est surtout pour les.
Oui,
pour la nation.
Mais le problème, c'est quand même ces normes sanitaires.
Ça, mais ça de toute façon, c'est le fruit d'un choix désastreux d'avoir voulu organiser cet euro sur plusieurs pays.
Ok, mais
c'était
l'année dernière,
déjà un mauvais choix au départ.
Je pense que l'année dernière, jusqu'à mi-mars, on imaginait ou jusqu'à début mars que bon, ça serait compliqué, même pour les journalistes, ça aurait été compliqué de suivre tout le monde, mais ça allait se réaliser. Non, alors que là, on se demande, est-ce que ça va pouvoir se réaliser?
Moi, je comprends.
En fait, c'est pas une mauvaise idée en soi, puisque au départ. S'il n'y a pas la Covid, tu peux
pour
faire
les supporters,
c'était compliqué pour les déplacements supporters.
C'est un calvaire.
Pour les déplacements,
moi, je comprends
général,
pas. Hein. Je comprends pas. En plus, quand on a vu ce qui s'est passé avec les JO, je comprends pas que l'euro n'ait pas été décalé au moins d'un mois. Qu'on décale déjà à l'été où il y avait peut-être moins de risques. Parce que là, on nous annonce par exemple en Angleterre.
C'est à l'été là.
Ça sera début juin, mi-juin, mi-juillet, de le décaler au moins encore d'un mois, parce qu'on savait de toute façon qu'on allait peut-être y avoir droit.
Et là on aurait eu le risque de canicule.
Là, on annonce par exemple des retours de spectateurs d'une capacité de 10 000 par stade.
Donc,
il va falloir gérer tous ces supporters s'il y a 10 000 spectateurs par stade. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est utopique encore aujourd'hui? On annonce pour la première ligue à partir de mi-mai, il va y avoir des tests. De toute façon, une capacité de supporters va revenir dans les stades des matchs de première ligue à partir de la mi-mai, donc sur les 2-3 dernières journées. Donc on aura peut-être déjà un indice sur ce qui pourra se réaliser pendant l'euro.
On a peut-être l'impression aussi que l'UEFA doit penser que c'est impossible. Enfin, sinon, ils auraient pris les devants avant pour réorganiser et relocaliser cette compétition.
En tout cas, moi ce qui me.
Est-ce qu'il y a un risque d'annulation,
Annie, au-delà du problème effectivement des déplacements et des régimes sanitaires, mais pour ces villes qui ont été candidates, qui ont été retenues pour accueillir l'euro, accueillir un euro avec un nombre réduit de spectateurs, je ne vois pas tellement l'intérêt. Les retombées financières, économiques vont être très limitées par rapport à l'afflux habituel de supporters.
Il y en aura peut-être zéro.
Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux reporter cet euro dans 12 pays de 4 ans et faire un euro ramassé sous bulle sanitaire cette année?
Aujourd'hui, il y a des doutes, par exemple, à Dublin et à Glasgow, pour cette capacité d'accueillir du public dans les stades, il y aura des matchs. Mais pour l'instant, il y a un gros doute déjà sur ces deux villes. Donc
mais quand on voit, par exemple, en Ligue des Champions, là, on a appris donc Liverpool-RB Leipzig, oui, dont le match allait. Alors, les Anglais ne pouvaient pas rentrer sur le sol allemand, donc ça s'est disputé à Budapest. Mais même pour le match retour, et là,
c'est Budapest aussi, là.
Aussi de Budapest.
Oui, parce que
c'est à cause de l'Allemagne aussi.
C'est à cause de la zone de Leipzig.
Voilà,
la région.
Du
parce
Länder,
que, par exemple, Mönchengladbach,
qui a d'autres normes sanitaires.
À Manchester.
Qu'il y a d'autres normes sanitaires
Je vois pas comment. Alors, on va dire que juin, c'est un peu plus loin et qu'on aura peut-être le temps de voir venir. Mais je vois pas comment ça peut s'organiser avec du public.
On a un point de comparaison avec l'Afrique, puisqu'en ce moment se déroulent les poules de la Ligue des Champions africaines. Et par exemple, le Maroc et l'Algérie ont interdit l'entrée sur leur territoire des ressortissants sud-africains en raison de craintes sur le variant. Donc les matchs des équipes marocaines et algériennes contre les clubs sud-africains se sont joués sur terrain neutre, en Tanzanie, au Burkina Faso. Mais en revanche, par exemple, le Soudan, pour les joueurs soudanais, ils ont obtenu une dérogation, puisque les ressortissants soudanais étaient également interdits en Algérie. Ils ont tout de même obtenu une dérogation pour pouvoir venir sur le territoire algérien par avion spécial, en ayant été testés rigoureusement avant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ça pour les joueurs? Peut-être, mais pour les supporters,
pour le public,
ça me paraît totalement impossible. On ne peut pas faire voyager 5000 personnes sous régime dérogatoire comme ça, par des vols spéciaux.
Et est-ce qu'il faut faire un euro sans public, avec des matchs avec clos? Franchement, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Autant le reporter, j'imagine.
Le reporter ou l'organiser sous bulle sanitaire dans un pays peut-être moins touché où
C'est pour ça que la Russie, effectivement,
représenterait
une possibilité.
Elle est candidate parce que c'est 24 équipes en plus.
Oui,
donc,
elle a l'infrastructure.
Oui, la Russie, oui, mais quand on pensait à Londres, c'est parce qu'il y a suffisamment de stades et de clubs et d'infrastructures dans la ville de Londres. Mais c'est une des rares d'Europe à pouvoir offrir organiser un euro. Lisbonne, par exemple, ce coup-ci serait hors concours.
Non, absolument. Mais si vous avez un public en nombre limité, les exigences sur les normes relatives au stade baissent. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer des matchs à Selhurst Park ou à À Craven Cottage, par exemple.
Ouais, enfin, l'Euro de stade de 20 000 places.
Oui, mais s'il y a personne, bon, après, s'il y a 5 000 spectateurs, ça peut le faire.
Est-ce, ouais. est-ce que l'Euro aussi devra se jouer pour des histoires de droits télé aussi? Parce que peut-être que c'est suffisant pour compenser l'organisation.
Il y a des enjeux multiples. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué de reporter ou d'annuler.
Très compliqué.
Et là, on est parti pour 3 mois, on va trembler.
Un vrai casse-tête juridique.
Beaucoup de questions, effectivement.
Des casse-tête calendaires.
Juridique, bureaucratique, sanitaire. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit en français. Justement, en parlant de dictons, et bien demain, ça sera le jour des dictons africains, des proverbes de Rémi avec le Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot aujourd'hui. Et je vous dis à demain.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfer International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique.
L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave.